Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Esprit, une revue dans l'histoire. Épisode 7. 2001, 2022, une revue au 21e siècle.
Une fois retombée la poussière des immeubles effondrés, que voit-on ? La ville hors de l'histoire, investie par les esthétiques modernes, déréalisée à force de surcharge d'images, a changé de visage. De quel œil va-t-on désormais regarder New York ? Les portées disparues de la ville resteront-ils perdues dans un monde kafkaïen, dans un mythe mortel ? Le point de vue de la mer, le regard vierge qui voit se dessiner pour la première fois une terre pleine de promesses, appartient-il à un temps révolu ? New York, Esprit, octobre 2001.
Effectivement, tout le monde se souvient où il était le 11 septembre. Moi, ce qui était important pour Esprit, c'est que le numéro d'Esprit qui était en librairie au moment du 11 septembre, c'est le numéro d'août-septembre 2001, qui s'appelle « À la recherche du monde musulman ».
Marc-Olivier Padis, directeur de la rédaction d'Esprit de 2013 à 2016.
Et donc, on était bien dans cette continuité d'un travail entamé depuis longtemps dans Esprit, qui est sur l'islam, le monde arabe, les mutations du monde arabe, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Liban, mais aussi l'Afghanistan, etc. On réunit très vite un comité de rédaction exceptionnel, c'est-à-dire on change la date, je pense qu'on fait le comité de rédaction tout de suite. Et donc le 11 septembre, en principe le 11 du mois, on est déjà avancé dans la fabrication du numéro d'octobre. Mais le comité de rédaction doit se dérouler donc quelques jours après, peut-être vers le 15 septembre. Et le comité de rédaction, on se dit, bon, on fait un numéro spécial. Enfin, on fait un numéro, donc on change le numéro qui était prévu pour octobre. Donc là, on monte un sommaire très très vite, tout le monde écrit. On boucle ce numéro pratiquement en 5 jours, puisque le bouclage est entre le 20 et le 25 du mois, quoi. Donc on a fait un numéro très très rapide, un peu porté par le fait que les gens voient en librairie notre numéro d'août-septembre. Ça a pas mal d'écho. Et puis, on a pas mal de ressources, finalement. Parce qu'on a fait écrire pas mal d'auteurs sur mais qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe, c'est quoi les mutations en cours. On a Pierre Asner et d'autres sur, finalement, la transformation de la guerre, le terrorisme. Le terrorisme, c'est une question qui est travaillée dans Esprit depuis les années 70. Ce qu'on comprenait à ce moment-là, c'est qu'il y avait un besoin de comprendre, il y avait un besoin de lecture du monde. Parce que justement, cette société française qui était un peu enfermée dans ces débats franco-français, elle prenait le 11 septembre comme quelque chose de complètement en dehors de ses catégories mentales. Mais si on s'était intéressé à ce qui se passait en Algérie, au Liban, en Afghanistan et ailleurs, on arrivait à quand même à disposer d'un certain nombre d'outils de compréhension de ce qui était en train de se penser. Mais ce qu'on n'a pas du tout anticipé, c'est à quel point un événement comme le 11 septembre allait recréer des clivages, enfin allait redéplacer des clivages internes au monde français autour de la question de l'islam. Ça, je pense qu'on l'a complètement sous-estimé à ce moment-là.
Quelques mois plus tard, un autre événement prend la rédaction par surprise. Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle.
L'eupénisation des esprits ou non, faut-il décréter que l'idéologie lepéniste gagne des points sans s'interroger sur les manières insidieuses dont le comportement de Le Pen, sa gestuelle, son langage, finissent par prendre. L'erreur serait ainsi de croire que le mépris lepéniste pour une télévision prise en otage par des élites permissives, on ne lui accorde pas un temps d'antenne suffisant, il est pour l'interdiction de Love Story, fait de lui une bête de scène pré-télévisuelle, un archaïque de la communication. Au contraire, la mise en scène du corps lepéniste répond au déficit de représentation qui caractérise aujourd'hui la culture télévisuelle. Le Pen n'est pas un simulacre ou les désarrois de la télévision. Olivier Mongin, juillet 2002.
On ne se passionne pas beaucoup pour la question des mœurs. On regarde ailleurs, d'une certaine manière. On ne regarde pas, finalement, on ne regarde pas la société française.
Olivier Mongin, directeur d'Esprit de 1989 à 2020.
Il n'y a pas que nous. Excuse-moi, à l'époque, Sciences Po, Pellerino, c'est terminé, Le Pen, c'est le mouvement ouvrier dévoyé, tout ça, ça va disparaître. On ne voit pas venir le lepénisme. On a cru, on avait le droit d'y croire, parce qu'il faut croire, on a cru que la démocratie était quand même sur une pente positive. Alors après, on dira, mais là, Bourdieu va te dire, mais alors, vous n'aviez rien prévu, les inégalités, tout le bordel. Ça, c'est totalement faux, c'est tu l'esprit. Hein.
C'est-à-dire que là, on ne l'a pas vu venir. Et à cause du désintérêt relatif, mais quand même assez marqué, pour ce qui se passait à l'intérieur de la vie politique française. Bon, 2002, nous, on est à fond dans le 11 septembre 2001, dans nos séries, l'après 11 septembre. Un an après, on refait un numéro spécial sur le 11 septembre et ses conséquences. Et d'ailleurs, n'importe qui peut regarder le suivi de la campagne présidentielle de 2002 dans l'esprit, il n'y a pratiquement rien. Un ou deux papiers de journal, et je me souviens très bien que ça n'intéresse pas grand monde. C'est-à-dire au moment des réunions du comité de rédaction, c'est à peine si on aborde le sujet. Enfin, donc, dans le fond, il y a une critique qui est redoublée vis-à-vis du Parti Socialiste, quoi, qui lui-même a très mal anticipé, qui a fait une mauvaise campagne, qui n'était pas sur les bons sujets, etc. Et donc, une position au sein de la gauche encore assez critique. Et puis, ouais, la volonté d'éclairer des phénomènes de la société française, mais en se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quels sont nous-mêmes nos points aveugles? Et donc, qu'est-ce qu'il faut décrire? Et peut-être, je pense, à ce moment-là, on essaye de publier des textes un peu d'expérience au jour le jour. Enfin, vraiment, d'essayer de décrire, retrouver un style de récit, enfin, de se dire... Il y a un problème de format aussi. Enfin, moi, c'était quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises. Notre problème, c'est pas simplement de trouver les bons thèmes, faut aussi varier les formats.
La population excessive, économiquement licenciée, ne peut plus être envoyée comme autrefois dans de lointaines garnisons, bureaux coloniaux et postes commerciaux ou no man's land en attente de pionniers. Ce qui s'ensuit, c'est que les personnes épuisées par les développements économiques et technologiques permanents ne peuvent être ni réinsérés, ni efficacement exclus de la société de consommateurs. Il ne devrait donc pas être surprenant que le mouvement sous-jacent, rarement exprimé explicitement et pourtant facile à identifier entre les lignes des discours officiels, va du droit à protéger, déterminé par des droits sociaux inaliénables, aux droits sociaux considérés comme une récompense pour ceux qui les ont mérités, au travers de leurs contributions actuelles et futures à la prospérité économique du pays, mesurée avant tout par la viabilité et la vigueur des marchés de consommateurs. Les usages de la peur dans la mondialisation, entretien avec Zygmunt Bauman, juillet 2005.
Les années 2000 marquent l'entrée dans le numérique, à la fois un objet de réflexion et un défi pour la revue.
le numérique, on commence à l'aborder dans des dossiers comme un monde exotique, complètement extérieur. Et donc, il n'y a pas tellement de profils de gens très, très versés dans le numérique. On est quand même sur un univers de l'écrit traditionnel, d'un rythme. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir, dans le fond, en quoi le format revue reste pertinent dans ce nouvel univers de communication qui est bouleversé par le numérique. Et d'une certaine façon, on est moins bouleversé que la presse, et même moins que l'édition traditionnelle. D'une certaine façon, on arrive à tirer mieux notre carte. On a le sentiment qu'il y a, une voie pour se faufiler. Alors, c'est aussi un objet de réflexion. C'est vraiment le type de sujet transversal qui convient bien à une revue. On ne parle pas encore d'obésité informationnelle, mais on sent que ça commence à venir. Ça pose toute la question de la manière dont la revue va s'emparer des nouvelles technologies, de la question de est-ce qu'on fait un site internet et comment on fait, etc. Mais il y a une volonté justement d'offrir, par le format revue, une manière de trouver la bonne distance par rapport à l'actualité, la bonne distance par rapport à l'analyse. Alors, il y a un certain nombre de collaborateurs de la revue qui nous interrogent là-dessus et qui nous poussent à faire un site, ce qui est logique pour les auteurs, parce qu'un auteur veut que son texte soit diffusé. Et donc, il voit bien que là, il y a un potentiel de diffusion qu'on n'utilise pas. Et du coup, on franchit le pas avec un premier site internet qui est un peu un site vitrine, on dirait aujourd'hui, mais en fait qui nous acclimate à cette culture. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, du contributif ou pas, du gratuit ou pas, enfin bon. Et donc, voilà, c'est au troisième site internet qu'on a trouvé un modèle à peu près stable, en tout cas bien articulé sur les archives. On comprend progressivement, à la troisième version du site, que c'est l'occasion de numériser le patrimoine de la revue et par conséquent de travailler sur notre histoire en éditorialisant des textes du fond pour les remettre en avant avec le site internet. Et je me souviens que l'entreprise qui a numérisé pour nous, le patron m'a dit, dans le fond, le plus difficile pour moi, c'est d'empêcher mes techniciens de se mettre à lire les papiers les uns après les autres, parce qu'ils sont, ils se laissent captiver par les trucs. J'avais trouvé que c'était un beau compliment pour le patrimoine de l'armure.
Alors, c'était un sujet assez compliqué.
Alice Béja, rédactrice en chef d'Esprit de 2011 à 2015.
Parce que donc on était dans une phase donc entre 2011 et 2015, en tout cas les années que moi j'ai connues, où à la fois en fait Esprit avait pris beaucoup d'avance sur certaines questions et notamment la numérisation des archives, hein, puisque celle-ci a été faite au début des années 2000, donc en tout cas par rapport à la plupart des revues françaises, c'était quand même assez tôt. Et en revanche, on avait pris plutôt du retard, alors pas forcément vis-à-vis des autres revues généralistes, mais enfin disons dans le paysage éditorial de manière générale, par rapport à la question des plateformes, type Cairn, type JSTOR, etc. Et en fait, c'est ces accords-là qui ont été négociés pendant que moi j'y étais. Donc la question de savoir, déjà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, si on y va, selon quelles conditions, qu'est-ce qu'on rend accessible, puisque là, il y avait en fait à la fois des questions de modèle économique, et toutes les revues et les journaux se posait un peu la même question à l'époque, à savoir comment trouver la rentabilité sur Internet, une question qui est toujours d'actualité. Donc il y avait une question de modèle économique, si on y va, pour quel gain, parce que les abonnements papier étaient quand même le socle de notre modèle économique. Et puis il y avait des questions rédactionnelles aussi qui se posaient. Et là aussi, il y a eu les mêmes discussions dans les journaux, dans les radios, la question de la fragmentation, c'est-à-dire que nous, on construit une revue qui est un tout, avec un dossier, avec des rubriques, dont l'ordre est pensé, il y a une introduction, etc. Puis les articles sont pas dans n'importe quel ordre, et puis on aime bien penser que c'est important, ce travail que l'on fait. Or, bien évidemment, avec une consultation en ligne, on a un morcellement, puisque les gens consultent à l'article, téléchargent uniquement ce qui les intéresse. Il y avait concomitamment une baisse quand même des abonnements en papier, liée aussi à un lectorat vieillissant. il y avait à la fois cette question de la transition numérique, encore une fois, hein, qui était déjà entamée, mais qui était en cours, et la question du rajeunissement et de la transformation du lectorat et des auteurs et des autrices. Pour moi, ces deux chantiers, ils sont un peu indissociables, même s'ils posent des questions différentes, et ça va avec la question de qu'est-ce qu'une revue et qu'est-ce qu'un ou une intellectuelle de revue au XXIe siècle, et comment est-ce que, eh ben, on recrute, voilà, des personnes plus jeunes, des personnes avec des profils différents. Après, on va pas se mentir, une revue comme Esprit a une histoire. Donc c'était ça aussi la difficulté. Pour Esprit, la problématique était différente, parce que, d'une part, on voulait pas perdre le lectorat existant, on voulait évidemment pas perdre l'histoire de la revue, qui était ce qu'il avait façonné, et l'équipe croyait encore à nombre des combats qu'Esprit avait défendus, donc il n'était pas question de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases et de réinventer. Voilà, il fallait préserver cet héritage-là, et donc c'est vraiment dans cette négociation de se dire, voilà, comment est-ce qu'on garde une identité qui, certes, était un petit peu en dilution, donc se posait la question aussi de, bah, finalement, c'est quoi notre identité, comment on la construit ou on la reconstruit, mais néanmoins qui était portée par une histoire, et la volonté de s'ouvrir, de féminiser le comité de rédaction, le pool d'auteurs et d'autrices réguliers, et de rajeunir. Je me suis rendu compte, alors ça peut paraître très naïf, hein, puisque n'importe quel premier cours de sociologie nous l'apprend, mais à quel point, en fait, pour féminiser nos auteurs, nos autrices, il fallait que ce soit une décision consciente, d'une part, c'est-à-dire que ça n'allait pas se faire comme ça parce qu'on se disait ce serait chouette d'avoir plus de femmes, et d'autre part, ça demandait beaucoup de travail. C'est-à-dire que concrètement, quand j'appelais quelqu'un pour faire un article, pour Esprit, si c'était un homme, j'avais quand même 80% de chance pour qu'il me dise oui, à peu près dans les délais, et ok, pas de problème. Donc j'avais pas particulièrement besoin d'avoir un plan B. Si c'était une femme, j'avais plutôt 80% de chance pour qu'elle me dise « je ne suis pas compétente, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le temps », et que donc il me fallait un plan B qui soit aussi une femme, et potentiellement il me fallait un plan C, et potentiellement je retombais sur mon plan D qui était un homme. Pour des raisons qui sont entièrement, connues, de socialisation des femmes, de questions du syndrome de l'imposteur, de tâches ménagères, de répartition des tâches ménagères, de sentiment d'illégitimité. Voilà, toutes ces questions sont bien connues, mais la manière dont ça se traduit concrètement dans le travail d'une revue, c'est ça.
La question principale, c'est la transformation de l'espace public. Et ce qu'on comprend tout de suite, c'est effectivement l'impossibilité de cette stature de l'intellectuel en majesté qui vient professer la vérité dans un espace de réception homogène, bien structuré. On sent très vite, effectivement, que l'espace se désagrège et que les lieux du débat, que les thèmes du débat aussi se transforment, et qu'il y a toute une sociabilité du débat public qui n'est plus la même. Où l'intellectuel de revue ne tient plus le même rôle qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de rôle à jouer.
Les conditions du débat ont changé et les repères se brouillent. Un livre en fait très tôt le constat. Le rappel à l'ordre de Daniel Lindenberg.
Les réactions provoquées par le livre de Daniel Lindenberg montrent au moins qu'il a atteint quelques points sensibles du paysage intellectuel français. Mais elles montrent aussi davantage les conditions nouvelles du débat plus que son contenu. Livre symptôme. Ce texte vient au moment où s'effacent de grands repères traditionnels, où les engagements habituels de la gauche sur l'autorité, la violence, la liberté des mœurs, par exemple, ne peuvent plus se dire dans l'évidence, ou plus encore, des textes attendus comme progressistes se révèlent ne pas l'être toujours. Le livre évoque ce qui serait une recomposition. Il tente, avec conviction, de rappeler un ordre dans ce qui pourrait devenir confusion. Prenons au moins acte de la tentative, même si nous ne sommes pas toujours obligés de la suivre. Autour du rappel à l'ordre, Georges Vigarello, janvier 2003.
Daniel Daniel Lindbergh, c'est une personnalité importante de toutes ces années, parce qu'il arrive avec la nouvelle équipe autour d'Olivier Mongin, et il accepte d'animer ce qu'on appelle le journal aux plusieurs voix, qui est la séance, disons, d'actualité du mardi midi, où on reçoit en général un auteur d'un livre pour une discussion très ouverte. Et c'est Daniel qui anime toutes les semaines. Donc ça veut dire que Daniel vient toutes les semaines, il fait aussi partie du comité de rédaction, donc il est très présent. Son livre, Le rappel à l'ordre, qui a 20 ans maintenant, qui va constituer un nouveau moment de débat et de clivage sur la scène intellectuelle parisienne, témoigne de cette transformation de l'espace public intellectuel, du déplacement du clivage ou des clivages, et de la dégradation de la sociabilité du débat, l'espèce d'intensification du débat. Il y a beaucoup de dimensions dans la réception de ce livre, mais il y a une chose qui est importante pour Esprit, c'est que tout d'un coup éclate au sens se manifeste visiblement la fin d'un consensus antitotalitaire qui tenait ensemble un certain groupe intellectuel, un certain groupe d'auteurs qui avait été, se retrouvait dans les mêmes références intellectuelles de la gauche antitotalitaire, mais qui finalement ont divergé progressivement. Et donc cible Daniel Lindbergh directement dans ce livre, comme Marcel Gauchet, Pierre Manant ou d'autres. Et donc, il y a une espèce de secret de famille qui explose, c'est-à-dire c'est le fait qu'en fait, on ne s'entend plus, qu'on n'est plus d'accord sur un certain nombre de sujets fondamentaux, sur des options politiques, mais pas politiques au sens pour qui on vote, mais sur des questions importantes comme le féminisme, l'antiracisme, sur la laïcité, la place de l'islam, des sujets dans le fond assez forts qu'on n'arrive plus à mettre en scène et à traiter comme ça autour d'une table dans un débat apaisé. En fait, on se rend compte à ce moment-là, je sais pas, on a raté des épisodes ou des moments de discussion, mais on n'arrive plus à discuter, en fait.
C'est un moment où toutes les références, tous les grands clivages sont mis à mal.
Antoine Garapon, co-directeur de la rédaction d'Esprit de 2016 à 2020.
Qui est de droite, qui est de gauche, qui est conservateur, qui est libéral. Donc, Daniel Lindbergh, avec la liberté qui était la sienne, avec la liberté que lui donnait aussi sa trajectoire, eh bien, il comprend qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui vont déraper. Une sorte de néoconservatisme, on pourrait dire à la française, anti-européen, anti-droit de l'homiste, anti-libéral, dispensant ses oracles régulièrement dans la presse. Donc, c'est un moment où ça va beaucoup changer. Et toutes les solidarités nées de la guerre en ex-Yougoslavie, eh bien, à peine célèbrent-elles leur victoire que immédiatement on voit apparaître de nouvelles, des glissements sémantiques, des glissements dans les trajectoires personnelles, et la difficulté qu'il y a à continuer, qui est la nôtre aujourd'hui, qui est de continuer à penser le monde.
En ce début de 21e siècle, le monde paraît fragile. Les crises s'enchaînent.
Les dérives des marchés financiers traduisent la volonté de repousser les risques à l'infini, c'est-à-dire de prendre des risques tout en évitant d'en supporter les conséquences. Des risques sans risque. Tel est le pari perdu d'avance de la finance qui participe d'un état d'esprit qui la déborde largement. À quoi tient ce délire qui, s'il n'a pas donné lieu par hasard à des métaphores relatives à la drogue ou au jeu, a été exacerbé par la révolution technologique et la passion du virtuel. Au-delà de la débâcle financière, les excès du risque et de la dette, Esprit, novembre 2008.
Alors, la crise financière de 2008, c'est un peu comme d'autres événements, s'inscrit en continuité avec un travail qu'on a déjà fait. C'est-à-dire, il y a deux dimensions. Il y a le côté les mutations du capitalisme contemporain. Là, on a écrit, on a sollicité des auteurs. On s'adresse à des lecteurs qui ont un besoin de compréhension, de clés de lecture de ce qui se passe. Il y a des mutations extrêmement rapides dans le monde liées à la mondialisation, mais aussi à la technologie, parce que la crise de 2008, elle est inséparable des capacités de spéculation et de mobilité du capital données par les nouvelles technologies et des nouveaux outils financiers eux-mêmes qui sont pas sans raison, mais qui sont compliqués à expliquer. Et puis, il y a une autre dimension qu'on a commencé à explorer quelque temps avant, qui est la catastrophe, c'est-à-dire les moments de choc. En 2008, on a déjà, je dirais, un peu capitalisé ce type de contact. André Orléans voit bien les discussions, Jean-Pierre Dupuis, Frédéric Worms. C'est quoi une catastrophe? Qu'est-ce qui distingue une catastrophe du risque? Pourquoi on est sorti du paradigme du risque? À ce moment-là, il y a aussi pas mal de travaux de sociologues là, sur lesquels on est moins présent. Mais enfin, on s'inscrit quand même là-dedans. Ce qui est frappant, moi, je trouve, c'est que on accompagne cette crise de 2008 d'un mouvement plus engagé sur les questions environnementales et écologistes, qui était déjà présente dans la revue par différents canaux. Mais dans le fond, le titre qu'on choisit après la crise de 2008, c'est « Retour sur Terre ». Et donc, sur Terre, au sens le plus environnementaliste du thème. Et donc, je pense que à ce moment-là, la prise de conscience, par rapport, disons, aux grands équilibres des engagements d'esprit et des priorités de la rédaction, que c'est à ce moment-là que la thématique environnementale est regardée avec beaucoup plus de sérieux.
Dans une lettre à Schiller, Alexandre de Humboldt définissait l'objet de sa recherche comme l'étude de l'habitabilité progressive de la surface du globe. S'il voyait la Terre comme un grand organisme vivant où tout est connecté, anticipant ainsi l'hypothèse Gaïa de Lovelock, il était clair aussi pour lui que les hommes étaient partie prenante de cet organisme et que de ce fait, l'histoire naturelle de l'homme était inséparable de l'histoire humaine de la nature. Pourtant, deux siècles plus tard, la question qui se pose avec urgence est « Comment avons-nous enclenché un processus qui va rendre la Terre, non pas de plus en plus, mais de moins en moins habitable ?» Et comment faire pour enrayer ce mouvement ? Humain, trop humain, Philippe Descola, décembre 2015.
On se rend compte qu'on est en fin de cycle. On est en fin de cycle, c'est-à-dire que de nouveaux sujets apparaissent. Il faut, le grand objectif, c'est de rendre ce monde un peu plus lisible. Et la tâche est ardue. La tâche est ardue parce que il nous faut trouver de nouveaux auteurs sur de nouveaux sujets en écrivant et en s'adressant à notre société avec les moyens de communication et sa manière de penser qui sont les leurs. Il nous faut trouver les Pierre Asner, les Paul Ricoeur, les jeunes qui ont ce profil un peu atypique, dans un contexte qui est tout à fait différent, qui est radicalement différent pour la revue. Il fallait changer de culture, tout en restant les mêmes. Et c'est le défi qui a été repris par la nouvelle équipe, beaucoup plus jeune, beaucoup plus féminine, maîtrisant beaucoup mieux les moyens de communication, continuant de saisir, continuant ce rôle de sismographe. Et il y a ce pari que avant d'interpréter le monde, avant d'essayer de le lire et de le comprendre, avant de le mettre en récit pour précisément le lire, eh ben il faut y être attentif. Et donc, je crois que les défis étaient très grands. Ils sont en passe d'être relevés.
Quand nous, on en entame finalement ce nouveau cycle, c'est-à-dire quand on lance les opérations, la manière de travailler donc autour de Jean-Louis et d'Antoine, qui avait fait cette proposition de réunir un petit conseil de rédaction assez restreint, et on a commencé un travail de réunion régulière et de programmation.
Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de 2016 à 2020, directrice depuis 2020.
On était complètement dans cette ambiance des attentats de janvier puis de novembre 2015. Et j'ai un souvenir assez marquant, moi, de ce premier numéro qu'on a décidé de faire en janvier 2016. Et c'était la volonté de s'emparer de cette question de la violence terroriste, sur laquelle la revue avait travaillé déjà de façon assez régulière depuis une dizaine d'années. Mais je crois que derrière la question de la violence terroriste, il y avait la question de la violence tout court. Et il y avait la question du mal, et il y avait la question du tragique. C'était des thèmes qui sont beaucoup revenus dans nos premières réunions de rédaction, avec le sentiment que on avait sans doute voulu, depuis quelques décennies, évacuer la question du mal, la question de la violence, la question du tragique. Et donc il y avait une insistance forte, notamment de la part d'Antoine Garapon, mais aussi de la part de Michael Fossel, de bien travailler avec cette perception du tragique dans l'histoire, contre cette espèce de grand cycle néolibéral qui s'était ouvert en 1989, donc d'économicisme, de solutionnisme, de recherche d'un monde sans friction, un monde de flux. Et donc de vraiment de prendre acte que on était sorti de ça, en fait. On était dans une période, on a pu écrire dans un édito un peu plus tard, où on nous présentait toutes les factures à la fois de ces décennies de l'après-89.
Les attentats nous ont réveillés en mettant brutalement un terme aux rêves que nous voulions sauver malgré les signes négatifs de toutes sortes, d'un monde apaisé, d'une mondialisation heureuse, mettant l'universalisme à portée de main, promettant la fin de la guerre, une vie rallongée et un enrichissement sans pause. Il faut dire que notre torpeur était entretenue par la mondialisation et le libéralisme, son manifeste idéologique, qui contourne les conflits et prétendent pacifier toute relation sociale en les gouvernant par l'intérêt et en réservant un traitement procédural à tous les problèmes. Alors même que la violence et le sacré, réapparu en couple ces derniers mois, renvoie à une dimension de l'expérience du monde que les sciences formelles n'arrivent pas à saisir. Pourquoi cette impuissance? Un réveil en sursaut. Antoine Garapon, janvier 2016.
Les événements suivants, je pense, qui ont beaucoup compté dans le travail de cette nouvelle rédaction, ça a été le Brexit, le vote sur le Brexit, qu'on a vécu aussi comme un énorme choc, et puis quelques mois après, l'élection de Trump. Et donc cette idée qu'on était dans un moment où les démocraties libérales se défaisaient, et qu'elles se défaisaient à partir du sein des saints, enfin au cœur même des pays et des systèmes politiques où elles s'étaient fabriquées, donc l'Angleterre et les États-Unis. Je crois que ça a aussi été quelque chose qui a beaucoup accompagné la rédaction, cette notion d'une qu'on était peut-être dans un moment de crise de confiance, de crise de foi, en fait, presque, dans le modèle démocratique. De la même façon que j'ai un souvenir très fort des attentats du Bataclan et d'être venue à la revue le lendemain juste pour y être ou pour trouver des gens avec qui on avait envie d'en parler, j'ai ce souvenir de très vite, juste derrière le choc, cette question qui se pose de comment est-ce qu'on réunit la rédaction ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Dès cette première discussion en vidéoconférence, était venue l'idée de faire un numéro sur la pandémie et son déclenchement. Et c'est comme ça qu'on a fait le numéro « Le virus dans la cité », où les gens étaient très nombreux, avec une envie évidente de partager leurs émotions, leurs impressions, mais aussi une envie évidente d'écrire avec cette humilité de tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre encore, ce qui ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas essayer. Et la même chose s'est reproduite au moment de la guerre en Ukraine, avec un choc. Alors pourtant qu'on s'intéressait beaucoup à ce qui se passait dans cette partie du monde, on avait décidé de faire un numéro sur la Russie, où on voyait bien que le pouvoir accélérait dans sa mise en place d'une série de politiques formidablement répressives et de volonté de réécrire l'histoire, et notamment autour de la dissolution de Mémorial. Et donc nos regards, notre intérêt s'était porté sur ce qui se passait en Russie, en Biélorussie, et puis précédemment en Ukraine, Maïdan, etc. depuis un moment. Mais comme tout le monde, on a été très surpris quand les troupes russes ont réellement franchi la frontière. Et à nouveau, il y a eu cette mobilisation rapide, très forte de la rédaction pour savoir... qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment on en parle, vers qui on se tourne, comment faut-il agir, quel est le sens de tous ces événements. Il y a une formule qu'on a beaucoup utilisée dans un tas de contextes différents sur le fait qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, ça semble extraordinairement prosaïque ou anecdotique, mais je pense que devant la perception de tout ce qu'on a perdu, devant la perception de tout ce qui se défait dans un rapport aux institutions, dans un espoir, dans un avenir meilleur, dans notre capacité à transformer la société pour le mieux, il y a ce constat de perte, cette volonté d'être lucide sur tout ce qui se défait, se décompose, de tout ce qui s'est perdu du côté du lien. Et je crois qu'il reste dans un certain nombre de nos projets, de nos chantiers, de nos envies, de nos idées, cette idée du lien qui me semble très forte. Un lien à retrouver, donc je l'ai dit, un lien à soi-même, un lien aux autres, un lien au monde dans lequel on habite. Et donc, il ne faut pas lâcher cette question, quoi. Donc, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni en termes de droits de l'homme, ni en termes de société démocratique, ni en termes de discussion et de débat. C'est une formule qui pour moi, résume un état d'esprit, une inclination, une orientation de travail dans une série de domaines aujourd'hui.
En traversant les générations, Esprit a changé de main et de forme. Et cette longévité s'est traduite par des inflexions, des engagements successifs, des reformulations programmatiques qui sont le propre de la confrontation au temps long. Mais si l'histoire finit toujours par avoir raison des lignes idéologiques, la traversée implique de garder les yeux fixés sur quelques balises qui guident la route même quand celle-ci devient sinueuse. L'aventure se poursuit et le relais se transmet à de nouveaux auteurs et autrices, à de nouveaux lecteurs et lectrices, toujours plus nombreux ces dernières années. Qu'ils connaissent et partagent cette histoire, ou qu'ils aient poussé récemment la porte, c'est avec eux et pour eux que nous remettons l'ouvrage sur le métier, en vue de l'invention, de mois en mois, d'une réponse neuve à l'événement neuf. Avoir 90 ans. Esprit. Novembre 2022.
À 90 ans,
Esprit est une revue. C'est-à-dire un collectif, un lieu, des engagements, des rencontres, des textes et des souvenirs qui résonnent au présent.
Alors, en 1976, je suis arrivé par Olivier Mongin, qui était extrêmement accueillant. Mais moi, à ce moment-là, j'étais sorti des ordres religieux, quelques années avant. Donc, je me suis trouvé à Esprit dans le bain immédiatement, ayant les mêmes préoccupations que Thibault, que j'avais connu à Sciences Po bien longtemps avant. Il était plus de gauche que moi. Mais enfin, c'était Mongin qui faisait le travail, je dirais. Et je n'ai eu aucune difficulté à me sentir à l'aise en Esprit, que ce soit sous l'angle littéraire, religieux, politique, etc.
Je sors d'années de prépa, j'ai envie de m'aérer et j'ai le sentiment intellectuellement que ce qui me manque, c'est une sociabilité intellectuelle qui me pousse au-delà de l'université, où j'ai le sentiment qu'à l'université, je ne vais pas trouver la sociabilité intellectuelle dont j'ai besoin pour continuer, disons, dans ma formation intellectuelle telle que j'en ressens le besoin. Alors, c'est vers les années 89-90, donc Olivier vient de reprendre la revue et on sent une espèce de dynamisme, d'énergie qui relance cette revue de façon vraiment remarquable. Et on le sent quand on vient ici, il y a du mouvement, il y a du monde, il y a des réunions, il se passe des choses. Je comprends avec le recul de plusieurs années que, en fait, j'ai assisté à un mouvement de lancement ou de redémarrage, enfin avec une énergie très forte, quoi. Je sens qu'il me plaît beaucoup à ce moment-là, parce que c'est pas l'image qu'on a du monde intellectuel. On a l'impression qu'on va arriver dans un endroit un peu compassé, avec beaucoup de sérieux, bien sûr, mais on dit toujours dans les journaux l'ambiance très feutrée de la revue Esprit. C'est une expression qu'on lit souvent sous la plume des journalistes, ça m'a toujours fait rire. Et donc, voilà, je découvre un lieu vraiment vivant. Et j'ai compris, après plusieurs années, que c'était lié à cet aspect, finalement, d'une nouvelle équipe qui arrive.
Dès le début, ce qui m'a frappé, je le dis très sincèrement, c'est vraiment l'atmosphère de respect intellectuel lors des comités de rédaction. C'est-à-dire que, bon, voilà, je me retrouvais quand même avec des gens comme Antoine Garapon, comme Frédéric Worms, etc., avec lesquels j'étais pas forcément toujours d'accord, mais avec lesquels il y avait, dans mon sentiment du moins, des vraies discussions. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose dans les interactions en face à face que j'ai toujours trouvé très agréable et extrêmement formateur d'un point de vue intellectuel. Et ce que je trouvais justement très beau aussi dans cette revue, et très rare, c'était la capacité de faire dialoguer des gens, en gros, qui allaient de la droite à l'extrême gauche, quoi. Et qui dialoguaient, qui se convainquaient pas forcément, mais en tout cas qui étaient capables de se voir en bonne intelligence, de discuter ensemble, etc. Mais donc oui, voilà, donc cette question de l'identité, elle était assez centrale.
On voit bien, Esprit est une revue qui constamment est en train de se faire, je trouve, en train de s'inventer. Et alors, du coup, c'est difficile. Il faut de l'imagination, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Étrangement, cette revue, ou pas étrangement, je ne sais pas, c'est une revue qui arrive quand même à mettre en scène des conflits, curieusement. Alors, des conflits qui éclatent parfois sans qu'elle le veuille. Il faut le dire autrement, elle ne met pas nécessairement en scène des conflits, c'est que des conflits se mettent en scène, quoi, tout à coup. La succession de Domnac a été conflictuelle. 2015, hein, et puis après 2015, comme ça a été difficile. Ça, c'est un aspect de la revue qui m'a toujours frappé, enfin, qu'on peut trouver, désolant. Et en même temps, je vois que les gens qui viennent parfois à nos réunions, ils disent que c'est un lieu de liberté où on peut quand même s'exprimer sur beaucoup de choses, où des gens de gauche ou des gens de moins à gauche peuvent dire des choses, où on entend des choses passionnantes, tu vois. Je suis toujours frappé de ça par les gens du dehors qui ne sentent pas nécessairement les tensions qui traversent la revue. Alors, quelles sont réelles?
Et ce qui est important, c'est que ça tienne. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'excommunication. Je pense que toute la dimension que j'apprécie dans la revue, c'est justement cette histoire qui remonte sûrement aux années 30, sinon plutôt aux années 50, où effectivement la question de l'excommunication de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous a été un des moteurs de beaucoup de revues. On ne parle qu'avec ceux avec lesquels on est déjà d'accord. Moi, ce qui me plaît dans cette revue, c'est justement qu'on peut parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, on peut offrir des articles à des personnes qui ne sont pas d'accord avec la revue, et il peut y avoir un vrai débat intellectuel, et ça, je trouve que c'est la grande vertu, justement, d'une revue intellectuelle aujourd'hui.
Le souvenir le plus marquant, qui est plus qu'un souvenir, c'est, qui est une manière de penser, qui est une manière de vivre, c'est cet art absolument inimitable que j'ai retrouvé ailleurs, de la conversation. À Esprit, on a des conversations avec des gens comme Paul Ricoeur, comme Claude Lefort, comme Olivier Mongin, comme Pierre Aster, comme Daniel Lindenberg et tant d'autres. Avec tous ces gens-là, j'ai eu des conversations. Et qu'est-ce que j'ai appris dans ces conversations? Et ces conversations, c'était les déjeuners après les comités de rédaction, c'était des moments de conversation extraordinaires. Pourquoi? Parce que un livre est un livre. On peut le lire, il va être lu de manière différente, parfois de manière partiale. Un article, c'est un article. Mais dans la conversation, il y a une souplesse, il y a une inventivité, il y a une liberté, il y a une manière de se donner réciproquement des clés de compréhension. Cet événement, c'est plus qu'un événement. L'événement qui marque de la revue, c'est plus qu'un événement. C'est un art de penser, celui de la conversation.
Esprit, c'est un lieu. Et par rapport à d'autres revues, Esprit, ça a toujours été un lieu. C'est pas une boîte aux lettres. C'est pas un réseau mondain. C'est un lieu où on peut venir frapper, ouvrir la porte à 10h le matin, où on trouve quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut prendre un café, avec qui on peut discuter, etc. C'est un lieu où on est accueilli. Moi, j'avais été très frappé par ça. C'est le fait que, on arrive et puis il y a cette grande bibliothèque où on voit toute l'histoire, le poids de la revue, et puis on peut s'asseoir, et puis on peut discuter, et puis il y a des groupes. Et ce collectif, c'est aussi ce qui caractérise cette revue et qui en explique la pérennité, l'histoire longue, la longévité. C'est pas une revue personne, c'est pas une revue boîte aux lettres. C'est vraiment une revue collective, parce qu'il y a un lieu. Et les étrangers qui arrivent à Paris, qui ont parfois une connaissance lointaine de la revue, ils savent qu'ils peuvent venir là. Et d'une certaine manière, beaucoup de réfugiés sont passés par là.
Là-bas, je vois un mec que je connaissais, qui est économiste, et par un copain écrivain de Rabat, il me dit qu'il veut déjeuner avec toi. Il m'invite, bon buveur, au bout d'une bouteille, je voyais qu'il tremblait, qu'il voulait dire un truc. Il me dit: Olivier, j'ai fait 22 ans, c'est peut-être moins, je parle de bagne marocain, je peux te dire. C'est un ancien maoïste comme il y en avait là-bas, un gauchiste pur et dur. Et il me dit, après, il y a un curé de Rouen, je ne sais plus qui c'était, qui m'a abonné à Esprit, et on daignait m'amener la revue. Il m'a dit, grâce à vous, j'ai compris ce que c'était que la démocratie.
Pour moi, en fait, les souvenirs les plus heureux de la revue, c'est les moments où on sent une très forte mobilisation du comité de rédaction quand il se passe quelque chose. Et donc, quand on sent que ça répond, qu'il y a du répondant, que... Il n'y a pas besoin d'aller chercher les papiers, mais que les gens se disent là, il y a une priorité, il y a un sujet, on s'en empare, On vient aux réunions, on est présent, on propose des idées, et les textes, paf, 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 ça fuse, quoi, ça vient. Et là, on sent la vie collective, quoi, le moment où la réflexion collective se met en place, et on a envie d'être ensemble, on a envie d'échanger, on a envie d'écrire, on a envie d'être publié, on a envie de monter des numéros. Tu sens que tu es porté par une énergie collective qui a été nourrie aussi par ces petites réunions, ces moments interstitiels où il se passe presque rien, mais par la routine finalement de la vie de la revue, où tu sens aussi ce besoin de se retrouver. C'est pas simplement qu'on convoque un comité de rédaction parce que voilà, il y a un texte à écrire, mais c'est que les gens se disent on va en parler au comité de rédaction. J'ai envie de retrouver ce moment collectif du comité de rédaction pour qu'on discute ensemble de ce qui s'est passé. On a vécu ça aussi après les attentats, quoi. Les attentats se retrouvaient très vite après pour se dire comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion. Alors, le rôle ingrat du rédacteur en chef ou du directeur, c'est de dire oui, mais après, il y a un numéro à faire, donc il faut qu'on traduise tout ça en forme éditoriale. Mais c'est ça, les moments les plus précieux. Et de fait, c'est lié à des événements, quoi, des événements forts.
C'est un lieu où on discute, c'est un lieu où on échange, c'est un lieu où on peut faire valoir son point de vue, même quand on n'est pas grand-chose dans la revue. Pendant très longtemps, il y a eu le journal à plusieurs voix, qui était animé par Casamayor, Serge Fuster, qui était un lieu de discussion, de débat, où on venait aussi livrer un papier quand on était jeune. On commençait par là. C'est Philippe Meyer qui raconte ça. Serge Fuster était un grand expert dans l'art de vous dire que votre papier était très bien, mais que l'introduction, ça n'allait pas. La conclusion, c'était pas terrible, et entre les deux, fallait tout réécrire.
Les numéros ne se fabriquaient pas en comité de rédaction. D'abord, il y avait une institution qui s'appelait le journal Plusieurs Voix. Toutes les semaines, on se réunissait de façon informelle. Et là, il se passait beaucoup de choses. Alors, c'était un peu à la bonne franquette, si vous voulez, mais c'était très, très important parce qu'on se sentait les uns les autres, si vous voulez. On s'essayait, enfin, réciproquement. Enfin, tu dis des bêtises. On pouvait déconner, quoi. Et on était plus proches. C'était ça une chose importante.
Dans la dimension intellectuelle du travail ici, je crois que c'est ça qui me plaît, le fait d'être difficile à situer. Difficile à enfermer dans une case parce que on est ici et ailleurs en même temps, parce qu'on cherche à faire des liens, des ponts, des croisements, à trouver des échos, des liens entre hier et aujourd'hui, à toujours être dans cet entre-deux, ou dans cet aller-retour, ou dans ce va-et-vient, dans quelque chose qui ressemble à une recherche intellectuelle à la fois sincère et modeste. Et puis, évidemment, l'autre dimension, l'autre chose, moi, qui pouvait m'attirer et qui m'attire encore et dont j'aimerais permettre la transmission, c'est cette notion d'amitié intellectuelle, en fait, de sociabilité, de réflexion à plusieurs. Mais l'amitié intellectuelle, ça vient aussi avec l'amitié tout court, quoi. Ça vient avec le fait de boire un verre ensemble, ça vient avec le fait de déjeuner ensemble, ça vient avec le fait d'échanger dans toutes les dimensions de ce que c'est qu'une personne, nous dirait Emmanuel Mounier, donc aussi avec nos vies personnelles, avec l'ensemble des liens qui nous permettent d'exister en tant que personne, voilà, et d'être des représentants de l'humanité, quoi, dans toutes ces dimensions.
Esprit, une revue dans l'histoire. Un documentaire de Rémi Baille et Anne Dugin. Réalisé par Louise André. Lecture, Hortense Bellhôte. Musique originale, Mathias Moreau et Valentin Fernandez. Mixage, Jean-Guilain Meige. Un documentaire produit avec le soutien de la Fondation Pierre Laffut. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.